l'écoute des RFI, soyez les bienvenus. Il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
Adrien Delgrange.
Place au journal En français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir.
Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous.
Voici les titres de ce journal du 23 septembre. Alexeï Navalny est sorti de l'hôpital avant peut-être de rentrer dans son pays, la Russie. L'opposant au président Vladimir Poutine va rester d'abord en Allemagne pour se reposer. L'Union européenne lance une réforme du droit d'asile, c'est-à-dire qu'elle veut changer les règles pour les migrants qui veulent venir en Europe. Dans l'actualité française, le coronavirus et de nouvelles restrictions pour la population, annonce le ministre de la Santé que vous entendrez. Et puis la mort de deux grands personnages français, d'une part la chanteuse Juliette Gréco, d'autre part le chef cuisinier Pierre Troigros.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
Alexeï Navalny est debout. Il est sorti de l'hôpital où il était soigné à Berlin depuis un mois.
L'opposant russe, victime d'un empoisonnement présumé au Novitchok, devrait rester en Allemagne pour y poursuivre ce qu'on appelle sa convalescence. En Russie, le Kremlin a commenté avec beaucoup de sobriété cette nouvelle, affirmant qu'Alexeï Navalny était libre de rentrer dans son pays. Écoutez la correspondance de Daniel Valot.
Comme à son habitude, le porte-parole du Kremlin a soigneusement évité de prononcer le nom d'Alexeï Navalny. « Nous lui souhaitons un prompt rétablissement », a simplement déclaré Dmitri Peskov. Et en ce qui concerne son retour à Moscou, il est libre de le faire à n'importe quel moment, comme tout citoyen russe. Fin de citation. Pour l'instant, il n'est cependant pas question pour Alexeï Navalny d'évoquer un éventuel retour en Russie. Dans un long texte posté sur les réseaux sociaux, l'opposant russe n'évoque que sa rééducation, rééducation qui se fera en Allemagne dans un premier temps. « La première fois que je me suis vu dans un miroir », raconte l'opposant avec son humour habituel, « j'ai cru voir un personnage du Seigneur des Anneaux et croyez-moi, il ne s'agissait pas d'un elfe. » Sur une photo postée sur les réseaux, Alexeï Navalny apparaît seul sur un banc dans un parc, les traits tirés, visiblement amaigris. À présent, l'opposant affirme vouloir retrouver l'équilibre et la maîtrise de ses doigts. « Je suis incapable, dit-il, d'attraper une balle de la main gauche ou d'écrire à la main. » Alexeï Navalny raconte aussi avoir demandé à un médecin ce qu'il devait faire pour retrouver toutes ses capacités intellectuelles. « J'ai aimé sa réponse, raconte-t-il, lire, écrire sur les réseaux sociaux et jouer à des jeux vidéo. » Daniel Valot, Moscou, RFI.
Alexander Loukachenko a prêté serment, c'est-à-dire qu'il a juré pour un nouveau mandat à la tête de la Biélorussie.
Une cérémonie d'investiture condamnée aussitôt par l'opposition qui est descendue dans la rue. Des milliers de manifestants sont sortis avec des drapeaux rouges et blancs à la main, synonyme de l'opposition en Biélorussie. À Minsk, la capitale, plus de 100 arrestations de manifestants sont en cours d'après des ONG sur place. Et puis enfin, Washington et Berlin annoncent ne pas reconnaître Loukachenko comme président de la Biélorussie.
15 jours après l'incendie du camp de Moria, le plus grand camp de migrants administré par l'Union européenne, la présidente de la Commission a présenté une réforme du droit d'asile européen, un changement pour celles et ceux qui veulent venir en Europe.
Avec notamment Zéphirin, plus de contrôle aux frontières, une accélération aussi des procédures administratives, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, défend un équilibre, dit-elle, juste et raisonnable.
Les questions migratoires sont complexes. L'ancien système mis en place en Europe pour y faire face ne fonctionne plus. Les mesures relatives à l'immigration et l'asile que nous présentons aujourd'hui offrent un nouveau départ. La question n'est pas de savoir si les États membres doivent être solidaires et contribuer à aider, mais comment ils doivent le faire. Moria a été un rappel brutal. Nous devons trouver des solutions durables en matière de migration et nous devons tous nous mobiliser.
La présidente de la Commission européenne aujourd'hui à Bruxelles.
Eux demandent un siège de membre permanent dans un conseil de sécurité de l'ONU.
L'Inde, le Japon, l'Allemagne et le Brésil l'ont fait savoir aujourd'hui à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans un texte commun, ils déclarent Le monde d'aujourd'hui est très différent de celui qui a vu la création des Nations Unies. C'était il y a 75 ans. Il y a davantage de pays, davantage de gens, davantage de défis, mais aussi davantage de solutions. Une demande ancienne qui a cependant peu de chances d'aboutir.
Les journaux en français facile.
Et les conséquences du Covid-19 en France, des zones rouges, voire rouges écarlates, autrement dit, des zones d'alerte maximale.
Ce niveau le plus élevé concerne le sud du pays, en l'occurrence Aix-en-Provence, Marseille, mais aussi dans les Caraïbes, la Guadeloupe. Ces régions sont frappées par des mesures plus strictes, entre autres la fermeture totale des bars et restaurants.
Et pour le niveau d'alerte juste en dessous, dit alerte renforcée, eh bien la liste inclut désormais Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Paris, Rouen, Grenoble et Montpellier.
Ces villes qui doivent appliquer toute une série de mesures annoncées ce soir par le ministre de la Santé.
Les mesures qui s'appliqueront à compter de samedi et à l'issue d'une concertation entre le préfet et les élus locaux sont les suivantes. Abaissement de la jauge des rassemblements à 1000 personnes, sous réserve que les protocoles sanitaires y soient strictement respectés. Interdiction des grands événements déclarés, comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, tels que plages, parcs. Fermeture anticipée des bars. L'horaire de fermeture étant décidé par le préfet, après concertation des élus, cette mesure sur les bars entrera en vigueur lundi, pour laisser le temps utile à cette concertation. En tout état de cause, les bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 22 heures dans l'ensemble de ces territoires. La fermeture des salles de sport et des gymnases. En effet, ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible, voire à minima complexe, et qui sont des lieux, hélas, de contamination importants. La fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et les activités associatives.
Dans l'actualité française, par ailleurs, c'est un grand nom de la cuisine qui s'en est allé. Le chef Pierre Troisgros est décédé à l'âge de 92 ans. Elisabeth Lequéré revient sur son parcours.
Il avait révolutionné la cuisine française et fait de son restaurant un monument de la gastronomie. Né en 1928 à Chalon-sur-Saône, Pierre Troisgros fait ses premières gammes devant les fourneaux du restaurant de ses parents avant de partir pour Paris. Dans les années 50, retour dans la Loire, où le jeune ambitieux retrouve l'établissement familial avec son frère Jean. Le restaurant des frères Troisgros ne tarde pas à se faire remarquer. Il décroche sa première étoile en 1956, puis la deuxième en 65 et la troisième en 68. La même année, le critique Christian Millau lance « J'ai découvert le meilleur restaurant du monde ». Depuis, l'adresse n'est jamais vraiment redescendue de son firmament. Lorsque Jean meurt en 1983, la ville de Roanne lui rend même hommage en rebaptisant la place de la gare Place Jean Troisgros. Michel, le fils de Pierre, entre aussitôt dans la danse pour épauler son père en cuisine. Pierre Troisgros avait quitté les fourneaux en 1996 à l'âge de 68 ans, mais même à la retraite, il n'a jamais abandonné la cuisine. En 2004, à 76 ans, il faisait encore partie du jury du concours des meilleurs ouvriers de France.
Et pour Emmanuel Macron, l'élégance et la liberté de Juliette Gréco ont rejoint ce soir le panthéon de la chanson française.
Juliette Gréco qui est décédée ce soir à l'âge de 93 ans. En 2006, au micro de Laurence Alloire, elle raconte sa rencontre avec Serge Gainsbourg.
Il m'a apporté la javanaise. Il avait peut-être ça dans ses tiroirs, je ne sais pas. On a dîné ensemble, on a bu beaucoup de champagne. J'ai un petit peu dansé toute seule. On est parti très tard, vers 4-5 heures du matin, je sais pas, on a bavardé comme des petits. Et le lendemain, il est venu m'apporter la javanaise, qu'il devait avoir en tête sans doute, mais qu'il m'a donnée.
En dansant la javanaise, nous aimions.
Le dernier tour de pistes de Juliette Gréco. Des archives sonores sont à retrouver sur notre site musique.rfi.fr. C'est la fin de ce journal.